Je reprends, si vous voulez bien. Alors, je ne continue pas le cours. Le cours continue mardi prochain. J'introduis le séminaire. Et vous avez déjà compris, puisque j'ai employé à plusieurs reprises les mots de témoignage et de témoigner, que le séminaire, cette année encore, est en rapport avec le cours, mais non pas aussi immédiatement peut-être que les deux années précédentes, puisque les titres sont un petit peu différents. Écrire la vie d'un côté et témoigner de l'autre. Et comme vous l'avez déjà compris par ce que j'ai dit dans la première heure, témoigner, c'est à mon sens une forme particulière, un genre spécial de cette écriture de vie, que ce soit de sa propre vie ou de la vie des autres, puisqu'on peut témoigner de sa vie comme de celle des autres. Et enfin, il faut ajouter qu'on ne témoigne pas toujours par écrit, même si c'est le témoignage écrit qui nous intéressera principalement ici. Ne l'oublions pas, pour commencer, le témoignage est d'abord judiciaire, avant d'être littéraire. Le témoignage, du latin testimonium, c'est la déposition. C'est la preuve judiciaire, c'est la relation de ce à quoi on a assisté ou qu'on a entendu. Je crois qu'il faut partir de ce sens judiciaire, mais aller assez vite à l'autre qui nous préoccupera, et qui est celui de la relation d'une expérience. Et en ce sens, témoigner, c'est faire de sa vie un lieu commun. J'employais déjà cette expression tout à l'heure à propos du débat sur la littérature personnelle. Un lieu commun, mais pas nécessairement un symbole ou un exemple, peut-être seulement un indice, comme dans la preuve judiciaire, parce qu'il reste quelque chose toujours du judiciaire. Et pour introduire cette réflexion sur le témoignage, je voudrais citer le début du journal d'un homme de 40 ans de Jean Guéhenno, publié en 1934, parce qu'il me semble que dans ces quelques premières phrases de les phrases l'incipit, ce qui légitime ce propos de Jean Guéhenno, eh bien on trouve en quelques phrases tous les problèmes de cette écriture du témoignage et la manière dont il entreprend de les résoudre, de les lever. Voici comment il commence. Je ne consignerai ici que ma propre histoire. Et nous avons dans ce consigné ce que nous avions tout à l'heure dans le life writing, l'enregistrement, la relation. Il s'agit d'une écriture qui se veut simple notation. Je ne consignerai ici que ma propre histoire. Et il me déplairait cependant que ce livre paru n'être qu'une autobiographie. Refus, et nous retrouvons également, je dirais, cette condamnation qui pèse sur la littérature personnelle. Toute littérature personnelle doit être légitimée dans cette inauguration de ses premières phrases. On ne peut pas oublier ici non plus que Jean Guéhenno, c'est un spécialiste de Rousseau, et que derrière cette réflexion sur le genre et sur l'écriture qu'il entame, il y a bien sûr son propre travail sur Rousseau. Je poursuis ce début. Donc, consigner sa propre histoire au plus près de la notation, mais avec cette hantise de la simple autobiographie, n'être qu'une autobiographie. Il poursuit ainsi. « C'est peu de choses de n'être que soi, et j'ai horreur de l'anecdote. J'ai longtemps résisté au désir, au besoin que j'avais d'écrire ce journal. Je craignais jusqu'au semblant d'orgueil qu'il y a dans des confessions. Mais une assez longue pratique des livres des autres m'a convaincu que nous n'avions guère qu'une chose à dire, et c'est nous-mêmes. » Vous voyez que ces quelques phrases sont compliquées, gênées, tournant autour de tous les dangers du culte du moi, l'anecdotisme, j'ai horreur de l'anecdote, la vanité, pour commencer, je craignais jusqu'au semblant d'orgueil, l'incertitude sur le genre, trois genres sont cités dans ces trois premières phrases, l'autobiographie, le journal et les confessions. Comment se sauver de tous ces travers, voyez tous ces écueils qui l'entourent à l'orée de cette entreprise? Comment se racheter de tous ces soupçons, vanité, anecdote, etc. Eh bien, tout simplement par l'allégation du témoignage, qui se présente ici comme l'issue à une multitude d'impasses. Chacun ne fait jamais que porter témoignage. Et puis, j'ai conscience d'appartenir à une espèce commune de l'humanité, et cela m'aide à croire qu'en parlant de moi, je parlerai aussi des autres. Vous voyez qu'on trouve au fond tous ces topoi que j'ai déjà largement énoncés dans la première heure. C'est ce que disait Fabrice Lucchini, ou c'est ce que disait le journaliste pour justifier son entreprise, avec tous ses dangers. Certes, son spectacle est un spectacle très narcissique, il ne fait que parler de lui, mais c'est pour mieux parler de nous. Et Jean Guéhenno, de la même façon, allègue le fait qu'il appartienne à une espèce commune de l'humanité, et nous retrouvons ce mot de commun ou de communauté. Il se présente comme l'un de ces hommes de série qui sont passés par les tranchées de la guerre de 14-18, non pas donc comme un exemple, mais comme un exemplaire. Et il y a toujours cette crainte de s'ériger en exemple que nous retrouverons du reste chez Montaigne. Et je crois que la référence aux tranchées de la guerre est ici capitale. C'est l'expérience des tranchées, de cette catastrophe historique qui autorise une écriture à valeur de témoignage pour cette génération. La justification, c'est le témoignage d'une génération. Je n'ai raconté, dit-il un peu plus loin, je n'ai raconté cette histoire qu'afin que ceux qui liront ce témoignage connaissent mieux le témoin et soient ainsi mieux en garde contre les préjugés qu'il peut avoir. Le récit autobiographique a donc comme justification de mettre au courant le lecteur des préjugés afin qu'il puisse passer à une lecture objective du témoignage. On ne peut pas oublier ici qu'il y a une querelle du témoignage de la guerre de 14 qui est peut-être la querelle inaugurale de notre réflexion et à laquelle je viendrai dans un moment. Bien avant notre période de réflexion sur la mémoire, sur le devoir de mémoire, etc., au lendemain de la guerre de 14-18, il y a un fort débat sur les rapports de l'écriture de vie et de l'histoire. Le témoignage, je le disais pour commencer, a été longtemps judiciaire, oculaire ou auriculaire, celui qui a vu de ses yeux ou entendu de ses oreilles ce dont il témoigne, mais avec la guerre de 14-18, il est largement sorti de ce contexte et on parle moins de témoins oculaires ou auriculaires que de témoins vivants ou survivants, que de derniers témoins, comme aujourd'hui. Dernier poilu, disparu récemment, dernier survivant de la Shoah, dont nous parlons souvent à propos du témoignage et du devoir de mémoire. Il y a donc deux qualités de ce témoignage moderne, de ce témoignage écrit et littéraire plus que judiciaire. Premièrement, on l'a vu avec Guéhenno, c'est un type, c'est un exemple au sens d'un exemplaire et non d'un modèle. On trouve, par exemple, cela apparaître au début de, enfin, dans le peuple de Michelet. Michelet se réfère au peuple comme témoin de l'histoire et dans le peuple à ce qu'il y a de plus simple. L'enfant, c'est l'enfant qui est le meilleur témoin. C'est dans le chapitre du peuple qui s'appelle « Des simples », l'enfant interprète du peuple. Le témoin, c'est donc le simple. L'enfant, le peuple. Il y était, dit Michelet, il en sait mieux le compte. Le témoin, c'est donc l'exemplaire, c'est quiconque, et d'autant mieux s'il est le plus simple. On y reviendra dans un moment. Et la deuxième dimension du témoin, me semble-t-il, c'est qu'il implique cette continuité spatiale ou temporelle, c'est qu'il est un truchement existentiel, c'est qu'il est un indice. Il est vivant ou survivant, il fait le lien entre ici et là-bas, entre naguère et maintenant, entre le lieu du crime et la scène du procès, entre le passé et le présent. Le témoignage rend présent l'autre lieu, l'autre temps, fût-ce par l'écriture. Mais c'est bien, comme on le verra, tout son problème à un moment où la littérature est de plus en plus caractérisée par l'absence et où le piège de la présence, l'illusion de la présence est dénoncé. Voici les deux aspects du témoignage qui me semblent essentiels pour commencer. C'est le témoignage de quiconque et c'est le témoignage du truchement. Premier exemple, eh bien, je le prendrai chez Proust pour revenir à lui. Ainsi parle Madame de Villeparisis, témoin, dans son salon lors de la réception du côté de Guermantes, et c'est pour le plaisir de Bloch. « Oui, monsieur, je me souviens très bien de monsieur Mollet, c'était un homme d'esprit. Et voyez ce rapport entre le passé et le présent qui est celui du témoin survivant. Il l'a prouvé quand il a reçu M. de Vigny à l'Académie, mais il était très solennel et je le vois encore descendant dîner chez lui, son chapeau haute forme à la main. Ah, c'est bien évocateur d'un temps assez pernicieusement philistin, car c'était sans doute une habitude universelle d'avoir son chapeau à la main chez soi, dit Bloch, désireux de profiter de cette occasion si rare de s'instruire auprès d'un témoin oculaire des particularités de la vie aristocratique d'autrefois. Voyez l'expression de témoin oculaire utilisée par Proust dans son sens judiciaire. Et nous n'en sommes peut-être pas encore au passage de ce témoin oculaire au témoin vivant ou survivant, même si c'est bien ce que représente Madame de Villeparisis. Et l'autre dimension du témoignage qui est aussitôt évoquée, puisque Bloch fait une bévue dans son interprétation du témoignage et qu'il prend pour une habitude universelle avoir un chapeau haute forme chez soi, ce qui est une bizarrerie de Mollet. Il prend pour un type ce qui n'est qu'un tic, et c'est ce qui est toujours le risque de ce témoignage, hein, la confusion de l'idiosyncrasie et du lieu commun. Mais non, c'était une habitude à M. Mollet, tout simplement, reprend Madame de Villeparisis, en le désabusant. Le témoin, au sens moins oculaire et auriculaire, moins judiciaire que vivant ou survivant, dans cette perspective du dernier témoin, tel que je voudrais l'entendre ici, il me semble qu'il a pour modèle Chateaubriand. Le Chateaubriand des Mémoires d'Outre-Tombe, mais peut-être d'abord le Chateaubriand de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui réfléchit dans la préface de l'itinéraire de Paris à Jérusalem à son rôle de témoin, le voyageur comme témoin. Je le disais il y a un moment, le témoin, c'est celui qui relie là-bas et ici de la même façon que le passé et le présent. Et dans l'ouverture de son récit de voyage, Chateaubriand réfléchit à ce que c'est que de témoigner de l'autre pays, de l'autre. Un voyageur, dit-il, est une espèce d'historien. Historien ou témoin, puisqu'il s'agit d'histoire contemporaine. Son devoir est de raconter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire. Vous voyez que Chateaubriand confond témoin et historien, puisqu'il donne à historien la définition même du mot témoin. Raconter fidèlement ce qu'on a vu ou entendu. Et il ajoute, Chateaubriand, « Il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre. Et quelles que soient ses opinions particulières, elles ne doivent jamais l'aveugler au point de taire ou de dénaturer la vérité. » Dans ces quelques phrases, Chateaubriand a donné une définition complète du témoin. Fidélité, raconter fidèlement, c'est la vieille fides de la rhétorique et de Cicéron. Ensuite, ne rien omettre, ne rien inventer, toute la vérité, rien que la vérité. Et enfin, la neutralité qui est exigible du témoin. Quelles que soient ses opinions particulières, ne pas dénaturer la vérité, ne pas s'aveugler. Fidélité, exhaustivité, toute la vérité, rien que la vérité, neutralité, voici les qualités qu'on attend du témoin, mais en même temps, ce sont les qualités, nous y viendrons la prochaine fois dans la première partie du cours, que toute la réflexion sur la littérature dénie à la littérature et peut-être à l'historien aujourd'hui. Ce sont des qualités qui sont justement ces apories de la littérature dans ses rapports à la réalité. Vous le voyez, il y a comme une incompatibilité entre témoignage et littérature, d'emblée. Mais Chateaubriand, témoin, c'est surtout celui des mémoires d'outre-tombe qui, d'un bout à l'autre des mémoires d'outre-tombe, adopte cette thématique du dernier témoin. Je pense qu'on pourrait faire toute une analyse de ce thème du dernier témoin. Dès le début, à Combourg, je suis comme le dernier témoin des mœurs féodales. Et je ne peux pas ne pas citer le passage très très célèbre qui conclut l'épopée de Bonaparte, lorsque Chateaubriand réfléchit à sa position, à sa place historique d'ultime témoin et de truchement historique, de dernier truchement historique. Il se trouve à Cannes, là où Napoléon débarqua de l'île d'Elbe, et il médite sur ce rôle qui est le sien comme narrateur des Mémoires d'outre-tombe. Entre les souvenirs de deux sociétés, entre un monde éteint et un monde prêt à s'éteindre, la nuit, au bord abandonné de ces marines, on peut supposer ce que je sentis. Je quittai la plage dans une espèce de consternation religieuse, laissant le flot passer et repasser sans l'effacer sur la trace de l'avant-dernier pas de Napoléon. Avec cette mer qui efface les dernières traces de l'histoire, les derniers indices. À la fin de chaque grande époque, on entend quelques voix dolentes des regrets du passé et qui sonnent le couvre-feu. Ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlemagne, Saint-Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes écoulés. Quand on a rencontré comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu au siècle et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me décourage de durer. C'est là que cette thématique du dernier témoin, me semble-t-il, est poussée à son comble avec ce poème de la survivance. Les mémoires d'outre-tombe sont le livre du témoin, avec toute l'ambiguïté immanquable du témoignage. Et dans cette page que je viens de lire, le doute sur la rencontre de Chateaubriand et de Washington. Avec le témoignage vient la fabulation. Le récit de témoignage est toujours confronté au faux, à la fiction. Les mémoires d'outre-tombe, c'est le livre du témoin, mais c'est aussi le livre de la fabulation, car tout témoin est suspect et il n'y a pas de témoignage sans soupçon de faux témoignage. Chateaubriand a-t-il rencontré Washington ? Ben, nous n'en savons toujours rien. Et il se peut que cette rencontre n'ait pas eu lieu, cette rencontre qu'il allègue ici, même si le dernier éditeur de Chateaubriand, Jean-Claude Bercher, dans son édition récente des Mémoires d'Outre-Tombe, pense qu'il l'a rencontré, mais non à la date qu'il indique dans les mémoires. Fidélité, neutralité, exhaustivité. Telles sont les qualités requises du témoignage, ainsi que Chateaubriand le décrivait en tête de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Tout récit de voyage est un récit de témoignage. Montaigne est évidemment lui aussi présent dans cette généalogie du témoignage, et il est, avant Chateaubriand, l'un des premiers à y avoir réfléchi. Et là aussi, je voudrais me référer à un passage qui est bien connu, peut-être trop connu, mais qui, me semble-t-il, introduit toute la problématique et la difficulté du récit de témoignage. C'est le prologue célèbre du chapitre des cannibales où Montaigne nous relate les mœurs des Indiens du Brésil et où il prétend tenir toutes ces informations de première main grâce à un témoin qu'il a rencontré. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, à l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France antarctique. Montaigne a donc disposé d'un truchement, d'un homme qui revenait du Brésil et qui lui a rapporté ce qu'il avait vu et entendu. Suite d'une digression sur l'origine, la nature de cette terre nouvelle du Brésil, confrontée aux écrits des anciens, Platon et Aristote, que Montaigne réfute au profit de son témoin. Ce nouveau monde du Brésil serait-ce l'Atlantide de Platon, ou bien serait-ce les colonies de Carthage évoquées par Aristote ? Autre témoignage de l'Antiquité, dit-il, auquel on veut rapporter cette découverte. Mais Montaigne rejette ces deux autorités, Platon et Aristote, pour alléguer son témoin, c'est-à-dire l'expérience contre l'auctoritas des anciens. Et voici la longue description tout à fait passionnante que Montaigne donne du témoignage et de ce qui fait les qualités du témoignage et qui montre le conflit du témoignage et de la littérature. Cet homme que j'avais, cet homme qui l'allègue, qui lui a raconté le Brésil, cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. C'est un topos, là encore. C'est celui qu'on rencontrait chez Michelet tout à l'heure. C'est le peuple qui est le bon témoin de l'histoire, et dans le peuple, c'est l'enfant, ce sont les simples. Montaigne nous dit de la même façon que cet homme, puisqu'il était simple et grossier, ne peut qu'être véritable, c'est-à-dire sincère. Et il développe longuement cette circonstance. le bon témoin, c'est l'homme simple. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement, c'est-à-dire avec plus de soin, plus de cure et plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Dès que le témoin a un peu plus de finesse, certes, il voit plus, il est plus perspicace, mais en même temps, il interprète. Et interprétant, il altère la vérité, il la modifie. Il ne vous représente jamais les choses pures, il les incline et masque selon les visages qu'ils leur ont vus. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prête volontiers de ce côté-là à la matière, l'allonge et l'amplifie. L'allonge et l'amplifie. Vous le voyez, Montaigne emploie ici tous les termes de la rhétorique. Gloser, interpréter, allonger, amplifier. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette critique de la rhétorique du témoignage et du témoignage comme littérature. Et Montaigne conclut en disant « Ou il faut un homme très fidèle, ou si simple, qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'ait rien épousé. Le mien était tel. » La simplicité du témoin est donc ce qui garantit l'authenticité du témoignage et de la description qui ne peut pas être rendue vraisemblable. Le mauvais témoin, c'est le témoin qui fait de la littérature à partir des choses vues, à partir de la vérité. Et Montaigne, je l'ai soutenu ailleurs, ébauche ici quelque chose comme la théorie pascalienne de la gradation. Il y a les gens simples. Les gens simples sont fidèles. Ça veut dire aussi qu'ils sont dignes de foi. Et peut-être aussi qu'ils ont la bonne foi. Au-dessus, il y a les demi-savants, c'est-à-dire presque nous tous. Ce sont les gens dangereux, ceux qui croient savoir, ceux qui, dit Pascal aussi, veulent changer le monde, et comme ils se trompent, ils mettent le monde en danger. Enfin, tout en haut, il y a les sages qui rejoignent les simples dans la vérité et dans la sincérité, mais aussi, aux yeux de Pascal, comme aux yeux de Montaigne, dans la tradition et dans le conservatisme. Cette gradation où on a les simples, les demi-savants qui font de la littérature, et enfin les quelques sages au sommet, elle est bien sûr conforme à la conception chrétienne de la sagesse qui appartient à l'humilité. C'est celle de la rempailleuse de chaises d'Orléans, de Péguy. Et Montaigne nous propose ici, vous voyez, cette gradation du témoin. Le bon témoin est rare, il faut l'homme simple ou l'homme très fidèle, l'homme superlatif, le vrai sage. Malheureusement, Montaigne continue ainsi. Ainsi, je me contente de cette information, l'information du témoin. sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent de la Terre du Brésil. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été, mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tout autre sujet, car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature, d'une rivière ou d'une fontaine, qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique. De ce vice sourde plusieurs grandes incommodités. Le danger dans le monde, c'est de parler toujours de seconde main, sur une petite expérience, de bâtir toute une cosmographie. Le malheur, c'est que tout au long de cette page où Montaigne fait l'éloge de la première main, du témoignage oculaire et auriculaire, contre les livres, contre les demi-savants, contre la seconde main, eh bien Montaigne arrange la vérité comme Chateaubriand le faisait à propos de Washington. Qu'il ait eu ou non un témoin, simple et grossier, ou plus fin, contrairement à ce qu'il prétend, il emprunte au livre des cosmographes toute l'information de Montaigne, là où il se réclame de ce témoin, vient du livre de Jean de Léry, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, et du livre d'André Thévé, Les singularités de la France antarctique, contre lequel Léry polémiquait. C'est ce que Franck Lestringant, que nous écouterons la prochaine fois, a très bien analysé. Et Montaigne pie même la querelle des cosmographes lorsqu'il fait l'éloge du témoin contre les livres. Montaigne fait passer les récits de Thévé et de Léry pour les propos de son pseudo-témoin oculaire. Il semble que nous ne puissions que conclure qu'il ment en se référant à son témoin et qu'il doit beaucoup au livre de Thévé pour sa information sur le Brésil, au livre de Léry pour la défense du témoin et pour ses considérations morales sur le cannibalisme, pour la comparaison entre l'Amérique et l'Europe. Curieusement, il résume cette querelle des cosmographes pour mettre en avant sa propre légitimité à aborder le sujet. Nous en sommes donc réduits à nous demander si le témoin que Montaigne invoque, cet homme simple, est une fiction. Et une fois de plus, nous sommes reconduits à cette proximité du témoignage ou à cette tentation du témoignage à la facticité. Quel est le sens de cette allégation ? Pourquoi Montaigne a-t-il besoin d'un truchement si ce truchement est fictif ou s'il lui prête plus que ce truchement ne lui a en vérité apporté ? Veut-il signaler qu'aucun témoignage n'est jamais de première main, pas plus celui de Thévé ou de Léry auquel il emprunte ? Vous voyez que ce prologue du chapitre des cannibales, de la même façon que l'épilogue des livres de Napoléon dans les Mémoires d'Outre-Tombe, tous ces textes nous interrogent sur la validité sur la valeur du récit de témoignage, sur son autorité, sur la garantie qu'apporte ce que la vieille rhétorique appelait l'autopsie. L'autopsie dans la rhétorique, c'était cette catégorie de la vue par soi-même. L'autopsie, c'est voir par soi-même, c'est l'action de voir de ses propres yeux. Montaigne, comme les cosmographes, se réclame de cette rhétorique judiciaire qui renvoie au témoin oculaire, qui fait appel à l'autorité de celui qui a vu et non pas lu, celui qui a vu un événement et qui peut en parler. L'autopsie donne une autorité sur les choses qu'on a de ses yeux vus et avec lesquels on peut donc parler avec autorité. C'est de cette autorité que se réclame Montaigne contre l'autorité des anciens, mais malheureusement cette autorité ici est largement fictive. Que veut alors dire Montaigne en affabulant en ce moment si important de son récit ? Peut-être que le témoignage n'évite jamais la littérature, n'évite jamais les clichés de la littérature, les topoi anciens. Et peut-être, justement, veut-il nous dire que les récits des voyageurs du Nouveau Monde empruntaient fatalement aux descriptions des anciens, notamment à Hérodote et à ce qu'Hérodote avait dit d'autres populations. C'est par exemple ce que l'historien allemand Curtius, Ernst Robert Curtius, confirmera dans son livre sur l'utilisation des topoi de l'Antiquité dans la littérature médiévale et moderne. Montaigne veut peut-être nous suggérer que cette naïveté du témoignage est un leurre, qu'on ne voit, qu'on n'entend jamais que ce qu'on a déjà vu, que ce qu'on sait déjà. C'est ce que nous disent les psychologues du témoignage aujourd'hui, les psychologues de la mémoire, mais en un sens, c'était déjà ce que Montaigne nous suggérait, et c'était, par exemple, ce que Proust relève à de nombreuses occasions dans La recherche du temps perdu, par exemple dans ses conversations avec le lift de l'hôtel de Balbec. Le lift me jura, avec la sincérité de la plupart des faux témoins, mais sans quitter son air désespéré, que c'était bien sous le nom de Camembert que la marquise lui avait demandé de l'annoncer, et à vrai dire, il était bien naturel qu'il eût entendu un nom qu'il connaissait déjà. Montaigne ne nous dit pas autre chose, mais au fond, c'est ce que tous les récits de voyageurs de la Renaissance nous prouvaient. On ne voit que ce qu'on connaît déjà. On ne décrit que ce qui a été déjà décrit par d'autres. TV multipliait ainsi les comparaisons entre l'Amérique et le monde des anciens, et Léry, dont Lévi-Strauss fera le fondateur de l'ethnologie, prétendait s'en tenir à l'autopsie, ce qu'il avait vu de ses propres yeux, mais il n'en pratiquait pas moins le renversement sociologique qui lui servait à condamner ce qui se passait en France. Aujourd'hui, nous avons sans cesse affaire à des polémiques sur la littérature de témoignage. C'est notre lot quotidien. Il n'est pas de semaine qu'un récit de témoignage ne fasse scandale parce que l'un de ses détails a été enjolivé, et si un détail est transformé, eh bien, c'est tout le récit qui est mis en cause. Quelle est la faillibilité? Quelle est la plausibilité? Quelle est la valeur du récit de témoignage? Le témoignage, je le disais, est très contesté par les psychologues de la mémoire aujourd'hui. Je vous renvoie à un livre très ancien déjà, enfin très ancien, qui a 30 ans, qui a fait date. C'est le récit d'une psychologue américaine qui s'appelle Elizabeth Loftus, Eyewitness Testimony, le témoignage oculaire. Et elle montrait, c'est un livre très riche, elle montrait par exemple combien les identifications de suspects par des témoins étaient peu fiables ou étaient faillibles, qu'elles étaient influencées par l'ordre de présentation, que les réponses étaient influencées par les questions, que les identifications étaient plus difficiles entre les races. Depuis, toute une série d'enquêtes confondantes ont été menées sur le témoignage judiciaire, mais aussi sur le témoignage littéraire, sur l'information parasite, sur la réponse à l'attente. Et on se demande aujourd'hui combien de condamnés à mort y a-t-il eu dans les dernières décennies aux États-Unis sur la base de faux témoignages, ou en tout cas de témoignages douteux. Mais encore une fois, ces questions ne sont pas très nouvelles, ces questions sur la valeur de la mémoire et sur la façon dont la mémoire enregistre les événements et les restitue lorsqu'elle est convoquée pour le témoignage. Cette fois-ci, c'est non pas le lift que j'appellerai pour donner cette conscience de la faillibilité du témoignage, mais Françoise, dans La recherche du temps perdu, lorsque Saint-Loup revient chez le narrateur pour voir s'il n'a pas laissé la croix de guerre, laissé là la croix de guerre qu'il a perdue dans l'hôtel de Jupien. Françoise croyait qu'il avait dû la perdre avant de venir me voir, car, disait-elle, il lui semblait bien et elle aurait pu jurer qu'il ne l'avait pas quand elle l'avait vu. En quoi elle se trompait? Et voilà la valeur des témoignages et des souvenirs. Proust, qui a beaucoup pensé à la mémoire et aux témoignages, sait bien que la mémoire n'enregistre pas l'expérience dans sa totalité, dans son exhaustivité, mais retient, conserve, emmagasine seulement des fragments de l'expérience. Un témoignage n'est jamais la restitution d'une expérience enregistrée dans la mémoire. Ce recording que j'évoquais il y a un moment avec l'écriture de la vie, le témoignage n'est jamais la restitution d'une expérience enregistrée, mais toujours une histoire. Une histoire racontée à partir des souvenirs fragmentaires d'une expérience. Un témoignage est toujours une reconstruction de l'expérience. C'est un récit fait à propos de l'expérience. Certes, il n'était pas besoin d'attendre les psychologues contemporains de la mémoire. Il me semble que chez Montaigne, chez Chateaubriand, chez Proust, on trouvait déjà ces indications. Mais la première grande vague de témoignages sur la mémoire, que je n'aurai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, qui a provoqué cette prise de conscience, c'est celle des témoignages sur la guerre de 14-18 et les polémiques qui ont eu lieu à la fin des années 20 sur, à propos du livre de, dont je ne parlerai pas, mais qui est le livre de référence sur cette question, le livre de Jean Norton Cru, intitulé « Témoins, qui montrait comment tous les récits d'anciens combattants passaient par les mêmes légendes de la guerre. Quelques mots à propos de notre programme pour terminer. Bien sûr, il est donc lié au cours, le programme de ce séminaire, et il est lié à cette question du rapport du récit de témoignage ou du récit à prétention historique et de la littérature et à la manière dont la littérature le transforme souvent en légende. Alors, nous aurons un certain nombre d'exposés, surtout au début, qui seront liés aux auteurs que j'ai mis au programme. Je pense que ce programme est affiché là-haut, je l'espère, je ne l'ai pas vérifié, mais je le vérifierai tout à l'heure. Nous commencerons donc par quelques exposés qui seront liés à Montaigne, Stendhal et Proust. La semaine prochaine, Franck Lestringant, spécialiste de ces récits de voyage de la Renaissance et spécialiste aussi de l'histoire du protestantisme, et qui nous parlera de ces rapports entre Montaigne et l'écriture justement, témoigner de cette inhumanité de la Renaissance et des guerres de religion. Sur Montaigne, Stendhal et Proust, il y aura également Bernard Sèvres, Mariella Di Maio et Henri Racimoff, mais il y aura aussi une réflexion sur les mémoires et l'écriture de l'histoire, avec Jean-Louis Janel et Tsvetan Todorov, une réflexion sur le pouvoir de l'art à témoigner, avec Jean Clair, donc historien de l'art, et Jacques Rancière, philosophe. Et puis, j'ai voulu qu'il y ait des écrivains. J'ai invité deux écrivains contemporains pour qui, dans leur œuvre, l'écriture de la vie est importante. Et nous aurons Annie Ernaux et Jean Rouault, dont les derniers ouvrages sont très proches de ce thème de l'écrire la vie. Et enfin, Claude Lanzmann, qui viendra parler de Shoah, qui viendra dialoguer avec Éric Marty, puisqu'il me semble que cette thématique du témoignage, eh bien, je l'ai dit, s'il y a un genre littéraire contemporain qu'on a pu appeler le récit de témoignage, c'est celui c'est le témoignage de la Shoah. Il me semblait donc qu'il s'imposait de conclure avec lui le séminaire. Voilà pour votre programme. Et vous.